à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon.
Aux Antilles, une poignée d'esclaves avait incendié les plantations et massacré les Blancs. Au départ, c'est pour rétablir l'ordre que nous avons été envoyés à Saint-Domingue.
En décembre 1801, l'expédition de Saint-Domingue quitte à Brest pour restaurer l'autorité républicaine dans les Antilles françaises. Sur place, les revendications d'autonomie et de liberté étaient portées par un leader noir.
Toussaint Louverture.
Ancien cocher, esclave affranchi, Toussaint Louverture s'est forgé un destin à Saint-Domingue où il apparaît comme un double noir de Napoléon. Mais l'ambition de Toussaint était contraire au projet de Bonaparte. Aimé Césaire résume mieux qu'un autre ce conflit.
Quand Toussaint Louverture vint, ce fut pour prendre à la lettre la Déclaration des droits de l'homme. Ce fut pour montrer qu'il n'y a pas de race paria. Ce fut pour incarner et particulariser un principe, qu'il n'y a pas de peuple d'exception.
Bonaparte ne pouvait tolérer un rival. Et comme il se considérait garant de l'autorité de l'État, il décida d'éliminer Toussaint et ses acolytes. Et en 1802, cette expédition punitive à Saint-Domingue eut pour conséquence le rétablissement de l'esclavage dans les territoires d'outre-mer. Cela dit, il faut avoir conscience qu'à l'époque, l'Académie de médecine n'a pas aidé Bonaparte à envisager les choses autrement.
Le nègre commençait à le museau saillant et la face et le crâne comprimés par les côtés. Le calmouque a le museau plat et la face élargie. Notre Boshiman a le museau plus saillant que le nègre, la face plus élargie que le calmouque et les os du nez plus petits que l'un et l'autre. Je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable au singe que la sienne.
L'altérité. Qui était l'autre dans l'esprit de Bonaparte? C'est là aussi que se noue la question sensible du rétablissement de l'esclavage.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 7, la question de l'esclavage.
Pour bien comprendre ce dossier épineux du rétablissement de l'esclavage par Napoléon, il faut remonter aux origines de la Révolution française.
Sire. Sire. Qu'y a-t-il ?
Ce 7e épisode commence donc au réveil du roi Louis XVI, à l'aube du 15 juillet 1789.
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Vive la nation !
Une révolution aux fortes secousses sismiques, et pas seulement en métropole.
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.
Première question, comment ont réagi les colons blancs du royaume de France devant le souffle révolutionnaire ?
Alors, les colons blancs des Antilles françaises, déjà, ils intègrent l'Assemblée constituante. Et là, ils vont défendre l'idée que l'esclavage doit être maintenu dans les colonies.
L'historien Frédéric Régent.
Alors le seul problème, c'est que, enfin pour eux, c'est que l'Assemblée constituante vote le préambule de la Constitution, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Pour échapper à ça, ils décident de placer les colonies en dehors du champ d'application de la Constitution, ce qui permet le maintien de l'esclavage.
Est-ce que les colons blancs des Antilles n'y voient pas aussi une opportunité pour eux d'autonomie ? Est-ce que cette liberté politique qui est affichée à Paris n'est pas pour eux une aubaine ? Et de se dire, très bien, nous allons être aussi indépendants peut-être.
Oui, alors les colons voient aussi la liberté dans la Révolution, mais pour eux, la liberté, c'est la liberté du commerce. Ils sont soumis à ce qu'on appelle l'exclusif, c'est-à-dire l'obligation de vendre toute leur production et d'acheter tous les produits importés à des négociants français. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir commercer avec les Anglais, les Hollandais, les Américains, ce qu'ils font d'ailleurs en contrebande. Et ça, c'est leur revendication forte. Et leur deuxième revendication, c'est de pouvoir gérer leurs affaires eux-mêmes, surtout pour pouvoir maintenir l'esclavage et le préjugé de couleur.
Ils ont proclamé l'abolition de tous les privilèges. Les nobles ne sont plus que des hommes comme les autres.
Mais vous, vous restez des esclaves.
C'est vrai. La question des Noirs semble intéresser très peu les Français.
Dans la presse la plus avancée, comme l'Ami du Peuple de Marat, ou les Révolutionnaires de France et de Brabant de Camille Desmoulins, on ne fait aucune allusion à ce problème.
Pourtant, ils ont promis. Ils nous trahissent. Même Brissot, qui est notre défenseur, a déclaré que nous n'étions pas encore mûrs pour la liberté.
À l'été 1789, les colons français veulent profiter de la Révolution pour faire fructifier leurs affaires. Et donc, hors de question d'abolir l'esclavage. Revenons maintenant à Paris avec une seconde question. Quelle position ont adopté les révolutionnaires vis-à-vis de l'esclavage ?
Un peu de silence, messieurs !
Alors, il y a certains révolutionnaires qui envisagent l'abolition de l'esclavage, mais une abolition graduelle. Hein, des gens comme Mirabeau, Lafayette, l'abbé Grégoire. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que la traite soit abolie immédiatement, c'est-à-dire l'introduction d'esclaves nouveaux dans les colonies, mais que pour abolir l'esclavage, il faudrait plusieurs générations. Voilà quel est le projet au départ.
L'abbé Grégoire se heurte à l'opposition à toutes les séances où il est question de l'admission au sein de l'Assemblée de députés noirs. Et pourtant, 5 mois à peine nous séparent du grand élan d'égalité et de fraternité.
Nous étions là, nous, les délégués des colons, pour calmer les esprits échauffés. Avec les négriers de la métropole, nous avons organisé un groupe de pression très efficace.
La motion est adoptée.
Nos adversaires les plus coriaces sont les amis des noirs. Mais nous les laissons chanter et vivre dans leurs rêves. Les esclaves auront beau réclamer, se révolter, ils resteront toujours des esclaves, parce que Dieu l'a voulu ainsi.
Or, ce vent de liberté politique qui souffle en métropole, Frédéric Régent, il va toucher aussi, évidemment, l'esprit des esclaves dans les Antilles françaises, avec des revendications soudaines et assez légitimes. Que se passe-t-il notamment à Saint-Domingue en 1791 ?
Alors, en 1791, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir 2 révoltes. Il va y avoir une révolte des libres de couleur, qui veulent l'égalité avec les Blancs.
Qu'est-ce qu'on appelle libre de couleur ?
Alors, un libre de couleur, c'est un affranchi ou un descendant d'affranchi. Ils ont été affranchis par leur maître. Alors le plus souvent, ce sont des femmes, concubines de ces maîtres, qui ont reçu la liberté. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces libres de couleur sont eux-mêmes, au fil du temps, devenus des propriétaires d'esclaves. Et à Saint-Domingue, on estime qu'un quart des esclaves sont possédés par des libres de couleur. Mais ces libres de couleur ont moins de droits que les Blancs. Par exemple, ils payent des impôts en plus, ils n'ont pas le droit de vote lors des assemblées coloniales qui se tiennent, et ces libres de couleur revendiquent l'égalité au nom de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ils se révoltent en août 1791. Et dans le même temps, on a une autre révolte, donc une révolte d'esclaves, mais aussi avec des libres de couleur à leur tête, notamment Toussaint Louverture. Et cette révolte demande à la fois l'égalité des droits pour les libres de couleur et une amélioration du sort des esclaves. Dans un premier temps, il n'y a pas de demande d'abolition de l'esclavage. Hein, il y a de demande de liberté pour les principaux meneurs de cette révolte, mais il n'y a pas encore de demandes d'abolition de l'esclavage.
Comment réagit la toute jeune République française à ces troubles à Saint-Domingue ?
Alors, elle va réagir en envoyant des commissaires civils.
Vous ne mêlez pas de nos affaires !
Retournez en France, commissaire ! Nous voulons pas de vos lois !
À l'Assemblée, les députés ne connaissent rien de la vie sur notre île !
Que voulez-vous ? Indépendance ?
Non ! Nous voulons juste faire prospérer nos plantations !
Alors il faut mettre fin à la guerre civile ! Je suis ici pour cela.
Non, vous êtes ici pour dresser les esclaves contre nous, en leur promettant la liberté.
Saint-Domingue fait partie de la République. Et vous devez vous soumettre à ses lois. Et ceux d'entre vous qui refuseront seront déportés.
C'est une déclaration de guerre.
Dégagez les lieux. J'utilise la force.
un de ses envoyés, qui s'appelle Sontonax, voyant que cette révolte d'esclaves s'est généralisée, que ces esclaves révoltés sont même soutenus par les ennemis de la France. À ce moment-là, l'Angleterre et l'Espagne ont déclaré la guerre à la France et soutiennent ces insurgés. Et pour les rallier à la République, Sontonax décide d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue.
C'est aussi une crainte de perdre la colonie, c'est-à-dire qu'il y a un pragmatisme chez Sontonax d'abolir l'esclavage parce que c'est peut-être aussi protéger le territoire français.
Oui, alors il y a deux raisons. Déjà, Sontonax est vraiment dans la mouvance abolitionniste. Et aussi, il y a un intérêt stratégique, c'est-à-dire qu'il mêle à la fois ses idéaux et l'intérêt stratégique. Alors, d'une part, Sontonax fait élire 3 députés, un blanc, un noir, un mulâtre, c'est-à-dire un métissé, et ces 3 députés se rendent à Paris. Ils sont accueillis donc par la Convention et ils expliquent ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, la Convention décide d'abolir l'esclavage. Et ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, donc ce sont les Montagnards, et ils sont proches des idées abolitionnistes. Mais ils n'avaient pas au départ voulu trop abolir l'esclavage, parce qu'ils assimilaient la révolte des esclaves soutenue par le roi d'Espagne à une sorte de Vendée. Et là, à partir du moment où ces députés expliquent qu'une partie des esclaves ont rallié la République, que l'esclavage a été aboli sur place, eh bien, non seulement l'esclavage est aboli à Saint-Domingue, donc actuel Haïti, mais il est aboli à l'ensemble des colonies françaises.
Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Au départ, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En août 1789, il n'est pas question d'abolition de l'esclavage chez les révolutionnaires à ce moment-là. Pour quelles raisons? Ils ne sont pas abolitionnistes, en vérité.
Bien sûr, il y a la Déclaration des droits de l'homme, mais en même temps, il y a la garantie du droit de propriété.
L'historienne Myriam Cotias.
Or, les esclaves sont des propriétés de colons. Et donc, comme ce droit est garanti, bien évidemment, il n'est pas question de toucher à ce droit-là. Donc, pas d'abolition de l'esclavage, si ce n'est sous la contrainte. Et finalement, ce sont les esclaves de Saint-Domingue qui vont produire cette contrainte.
Résumons. Aux Antilles, en 1791, les esclaves se sont révoltés pour obtenir une amélioration de leurs conditions. Très inquiets devant ces revendications, les propriétaires d'esclaves, les colons blancs français, envisagent de s'allier aux Anglais royalistes.
Nous voulons juste faire prospérer nos plantations.
Or, face au péril de perdre ses colonies au profit des Britanniques, la jeune République française cherche à s'appuyer sur les populations noires afin d'en faire des soldats de la Révolution.
Les Français sont entrés en contact avec moi. Ils savent que pour avoir mon ralliement, ils doivent décréter l'abolition.
Ainsi, en février 1794, la Convention abolit l'esclavage dans toutes ses colonies.
Sauf en Martinique, patrie de Joséphine de Beauharnais, puisque les colons de la Martinique vont faire des tractations avec les Anglais pour livrer la colonie aux Anglais et ainsi éviter l'abolition de l'esclavage.
Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre? Qu'à son rang parmi les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était teint de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste.
Après ce rappel nécessaire des impacts de la Révolution française aux Antilles, revenons maintenant à Napoléon Bonaparte.
Lorsqu'il s'empare du pouvoir en 1799, l'esclavage n'existe plus dans les colonies françaises. Mais à Saint-Domingue persistent des troubles, des violences et des affrontements entre populations noires et blanches. Bonaparte s'exaspère car, souvenez-vous, l'ordre avant tout.
Aux Antilles, une poignée d'esclaves révoltés ont incendié les plantations, massacré les blancs et instauré une sanglante tyrannie. J'envoie le général Leclerc avec 7000 hommes d'élite. Grenadiers, carabiniers, hussards, artilleurs, les meilleurs soldats de l'Europe. Rétablir l'ordre à Saint-Domingue.
Section, halt !
Une expédition militaire de 35 000 hommes est confiée au général Leclerc, beau-frère de Bonaparte, l'époux de sa sœur Pauline. Une expédition punitive destinée à mater cette nouvelle révolte à Saint-Domingue.
Alors, ce n'est pas exactement une révolte, c'est Toussaint Louverture décide de proclamer une constitution autonomiste. Il dit que Saint-Domingue fait partie de l'Empire français, mais en gros, tout le gouvernement antérieur, c'est lui qui le gère, et d'ailleurs, il s'autoproclame gouverneur à vie de Saint-Domingue. Donc Bonaparte, lorsqu'il apprend ça, est furieux. Il avait laissé en place Toussaint Louverture, entre 1799 et 1801, et au même moment sont signés les préliminaires de paix avec l'Angleterre, qui sont signés en octobre 1801. Et à ce moment-là, il veut se débarrasser de celui qui constitue son dernier rival, parce que au niveau de la métropole, tous les autres généraux ont été mis au pas ou éliminés ou proscrits. Et son dernier rival, c'est Toussaint Louverture. Et il décide d'envoyer une expédition dont le but est, je cite Napoléon, d'anéantir le gouvernement des Noirs.
Et qui est ce Toussaint Louverture dont tout le monde parle ?
C'est l'un des chefs des rebelles.
Louverture, c'est le nom de son maître ?
Non, il le doit à sa bravoure au combat. Oui, on dit qu'il n'a pas son pareil pour faire l'ouverture dans les lignes ennemies.
Bien. Quoi qu'il en soit, il nous fait la guerre. Par conséquent, je compte sur vous pour le neutraliser. Alors achetez-le, déportez-le, mais réglez le problème.
Une fois sur place, le général Leclerc fait preuve d'un esprit rusé. Jamais il ne dit à la population antillaise qu'il est venu leur reprendre la liberté. Non, bien au contraire. Le beau-frère de Bonaparte affirme être là pour les libérer de ce tyran noir, Toussaint Louverture, qui a décrété seul qu'il serait gouverneur à vie. Et au-delà de ses attentes, la tactique de Leclerc fonctionne à merveille sur les lieutenants de Toussaint Louverture.
Toussaint Louverture se trouve privé de beaucoup de ses troupes et de ses lieutenants.
Plusieurs de nos généraux sont tombés dans le piège et se sont ralliés.
Alors, il mène une lutte pendant plus de deux mois, et finalement, il signe un cessez-le-feu dans lequel le général Leclerc l'autorise à rester sur sa plantation à Saint-Domingue.
Je savais que vous étiez un homme de raison. Le premier consul sera ravi d'apprendre que vous vous soumettez à mon commandement.
Il se rend donc le 6 mai 1802.
En attendant, je vous propose de dîner ce soir, pour sceller ce moment historique.
Et un mois plus tard, Leclerc décide de le déporter et il donne comme indication à Napoléon Bonaparte de l'éloigner le plus possible des côtes françaises, qu'il soit emprisonné. Et il indique si jamais Toussaint Louverture revenait à Saint-Domingue, ce serait à nouveau le risque d'une nouvelle insurrection. Et Toussaint Louverture donc va être mis le plus loin de la mer possible.
Donc déporté en métropole.
Déporté en métropole et il va être enfermé au Fort de Joux dans le Jura.
Près de Pontarlier.
On n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses.
Quatre thermidors de l'an 10 de la République française, une et indivisible. Il est arrêté que le nommé Toussaint Louverture sera transféré et retenu prisonnier au fort de Joux. Il sera tenu au secret, sans pouvoir écrire ni communiquer avec aucune autre personne que son domestique.
La cellule est située au rez-de-chaussée du bâtiment voûté du château de Joux. Elle mesure 20 pieds de long sur 12 pieds de large. Une voûte en plein cintre, constituée en calcaire du Jura à l'époque de Vauban, couvre tout le local. Un plancher en sapin constitue le sol de la cellule. Quant au mobilier, Il se compose d'un lit sans rideau, d'une chaise percée, d'une petite table, de deux chaises et d'une commode louée à l'aubergiste de la Cluse, village situé au pied du château. Il y a une baignoire et une femme est chargée du transport et du chauffage de l'eau. Reste le chauffage, précisément. L'hiver est souvent rude dans le Jura. Une cheminée en pierre permet de maintenir une chaleur raisonnable.
Je fais du feu, mais j'ai froid. Les Caraïbes sont loin, et je suis gelé. Ils ont rajouté des barreaux et un mur de briques. Je suis un animal triste, sans soleil.
Ces conditions de détention sont terribles pour un homme habitué au climat tropical. Hein. Il a très froid, mais il est quand même considéré comme un officier prisonnier. Mais ces conditions sont terribles. Et surtout, Toussaint Louverture a du mal, enfin on le voit dans les lettres qu'il écrit à Napoléon Bonaparte, il dit « bon, j'ai toujours été fidèle à la France, bon, j'aurais pas dû faire la Constitution, mais c'était une erreur, mais c'est la seule erreur que j'ai pu faire ».
Général, premier consul.
Le 29 Fructidor de l'an 10 de la République, Toussaint s'adresse au général Bonaparte.
Je suis un de vos soldats et premier soldat de la République de Saint-Domingue. Je suis aujourd'hui malheureux, ruiné, déshonoré et victime de mes services.
Et Bonaparte le méprise.
Bonaparte ne lui répond pas. Alors Bonaparte est surtout intéressé parce qu'il croit que Toussaint Louverture a un trésor. Et donc il envoie un de ses généraux demander à Toussaint Louverture où est ce trésor. Et Toussaint Louverture dit qu'il n'a pas de trésor.
Général, demain on vous privera de votre bois, de vos couvertures. La patience du premier consul a des limites. Si vous avez quelque chose à me dire à propos de votre trésor de guerre, c'est le moment.
Je ne parlerai qu'à Bonaparte, en personne. Adieu, monsieur.
Toussaint Louverture a une grande admiration de Napoléon, qui dira, lorsqu'il écrira ses mémoires, qu'il avait deux solutions, soit faire confiance à Toussaint Louverture et utiliser ce général noir, dit-il, pour continuer à diriger la colonie de Saint-Domingue, ou alors l'éradiquer. C'est cette deuxième solution qu'il va choisir et Toussaint Louverture est à ce moment-là trahi et déporté au fort de Joux où il va mourir.
Le 17 Germinal en 11 à 11h30 du matin, j'apporte des vivres à Toussaint. Je le trouve mort, assis sur sa chaise, auprès de son feu.
Il meurt en avril 1803, donc après un peu moins d'un an de détention.
Papa loco, où se vend, où se l'allait, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué. Papa loco, où se vend, où se l'allait, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué, et tout ça qui dit bien.
Prise au piège des frimas, Toussaint Louverture meurt en métropole. Mais à Saint-Domingue, la marche de l'histoire se révèle retorse pour l'expédition du général Leclerc.
Leclerc meurt au début de novembre 1802, donc il est déjà très malade, la fièvre jaune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps expéditionnaire, ce sont 35 000 hommes qui sont arrivés jusqu'en octobre 1802. Sur ces 35 000, à la fin du mois d'octobre, il n'y en a plus que 4 000 en état de combattre. Bon, il y en a quelques-uns qui sont morts au combat, mais c'est surtout la fièvre jaune qui les décime. Et la politique que mène Leclerc en septembre-octobre, il commence à se méfier des officiers de couleur qui se sont ralliés à lui. Il en fait exécuter un, notamment le général Maurepas, de manière horrible. Hein. Il est attaché à un mât, on lui pend sa femme, ses enfants. On lui cloue des épaulettes de généraux sur ses épaules. Enfin bref, et il est exécuté. Et cet événement, cette défiance, fait que ceux qui s'étaient ralliés à Toussaint Louverture, comme Christophe, comme Dessalines, également comme Pétion, hein, ce que l'on appelle les mulâtres, donc les généraux noirs, mais aussi les généraux dits mulâtres, s'allient et vont faire une nouvelle insurrection en octobre 1802. Et bénéficiant à la fois de l'effet de la fièvre jaune, de la connaissance du terrain, donc utilisation de la guérilla, et aussi, en avril 1803, la guerre reprend avec la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne va empêcher toute arrivée de renfort, et va aussi donner, vendre, soutenir par des ventes d'armes les insurgés de Saint-Domingue.
Soutenir les insurgés au point que le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines, leader noir et fidèle lieutenant de Toussaint Louverture, proclama l'indépendance de Saint-Domingue, devenant Haïti. Le consulat a donc perdu son fleuron colonial, donnant tort aux prédictions de Bonaparte 3 ans plus tôt.
À Saint-Domingue, des actes irréguliers ont alarmé la soumission, mais une flotte et une armée qui s'apprêtent à partir des ports de l'Europe auront bientôt dissipé tous les nuages, et Saint-Domingue entrera tout entier sous les lois de la République.
Alors le premier objectif de cette expédition de Saint-Domingue, on l'a dit, Frédéric Régent, c'était de rétablir l'ordre. Il y a un deuxième objectif qui va arriver assez vite, c'est faire appliquer la loi du 20 mai 1802. Quelle est cette loi, Frédéric Régent ?
Alors, le 20 mai 1802, une loi est adoptée pour maintenir l'esclavage là où il n'a pas été aboli, à savoir la Martinique, restituée par les Anglais à la paix d'Amiens, et également l'île Maurice et la Réunion où l'esclavage n'a pas été aboli. Donc cette loi maintient l'esclavage dans ces colonies. Mais cette loi, en creux, dit que la liberté, l'abolition, continue de se poursuivre à Saint-Domingue, en Guadeloupe et en Guyane.
Mais dans les faits, c'est pas ce qui va se passer.
Alors dans les faits, c'est pas ce qui va se passer en Guadeloupe et en Guyane. Mmh. En Guadeloupe, en octobre 1801, il y a eu une révolte menée notamment par des officiers de couleur, mais soutenue aussi par des petits blancs républicains radicaux. Et Napoléon Bonaparte a envoyé une expédition pour mettre fin à cette révolte. Une partie importante d'ailleurs de ces rebelles vont se soumettre. Certains même vont combattre aux côtés du général Richepanse, qui est chargé de mener cette expédition. Et ceux qui vont résister, c'est Louis Delgrès, donc un métis originaire de la Martinique. Et Louis Delgrès donc, se bat jusqu'au bout, et à la fin, il rassemble sa poudre, et puis il la fait exploser, et il meurt, selon les sources, avec 300 ou 500 de ses compagnons. Et suite à cette victoire, Richepanse décide d'éliminer tous ceux qui ont porté les armes contre son expéditionnaire, mais aussi il va déporter tous les soldats de couleur, y compris ceux qui avaient combattu avec lui. Et pire encore, il va essayer de les vendre comme esclaves. C'est-à-dire que Richepanse, alors qu'il n'a pas d'instruction de rétablir l'esclavage, et là on, voilà, là, on est formel là-dessus, eh bien, commence à repratiquer les ventes d'esclaves. Et Napoléon Bonaparte, lorsqu'il apprend les résultats de l'expédition Richepanse, il déclare même « Le général Richepanse est allé au-delà de nos espérances. » Il a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Et Napoléon Bonaparte, le 16 juillet 1802, prend un arrêté consulaire pour rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Et il indique les motifs. Alors, il y a des motifs économiques. Il y a le motif aussi de dire que les Noirs sont paresseux et qu'ils ont besoin de l'autorité, de la discipline de leur maître pour pouvoir travailler. Et considérant le plus important qui est noté, ils doivent recevoir l'expiation de s'être révoltés contre les troupes du gouvernement consulaire.
Il faut payer la faute.
Exactement. Le terme qui est employé, c'est expiation.
Le grand chantre de la négritude, Aimé Césaire, a construit avec des mots forts, dans des lignes poignantes, un mémorial à la gloire de Louis Delgrès.
Un brouillard monta, le même qui depuis toujours m'obsède. Tissu de bruit de ferment de chaînes sans clé, des raflures de griffes, d'un clapotis de crachats. Un brouillard se durcit et un point surgit qui cassa le brouillard. Le point qui toujours m'obsède. Et ce fut, sur une mer d'orgueil, un soleil non pareil, avançant ses crêtes majestueuses comme un jas de troupeaux de taureaux vers les plages, prairies obéissantes. Et ce furent des montagnes libérées pointant vers le ciel leur artillerie fougueuse. Et ce furent des vallées au fond desquelles l'espérance agita les panaches fragiles des cannes à sucre de janvier. Louis Delgrès, je te nomme.
À la Martinique, La tradition veut que la reine du carnaval porte un manteau impérial. Ainsi, au milieu des arlequins turbulents, des corsaires fantaisistes, des masques et des grotesques de tout poil, on conserve jalousement une image du passé, celle de l'impératrice Joséphine.
En 1963, la Martinique aimait à célébrer le souvenir de Joséphine de Beauharnais. Depuis, les choses ont bien changé.
Avec fracas, la statue de Joséphine de Beauharnais est arrachée de son socle et finie à coups de massue. Elle était érigée à Fort-de-France depuis 1858. Elle avait déjà perdu sa tête il y a 30 ans, décapitée par un activiste.
On accuse régulièrement Joséphine de Beauharnais, donc martiniquaise, fille de famille colon, d'avoir participé au lobby qui a fait pression sur Bonaparte pour rétablir l'esclavage. Donc on dit qu'il y avait un entourage autour de Bonaparte qui a vraiment fait pression pour des raisons évidemment économiques pour rétablir cet esclavage en 1802. On dit que Joséphine en faisait partie. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Cotillas ?
J'y vois deux choses. D'abord, un discours qui est très genré. Enfin, c'est-à-dire qu'il est toujours simple et dans une certaine lecture de l'histoire, on voit bien que les femmes sont responsables de beaucoup de maux. Mais on peut dire aussi qu'il n'y a aucun élément, que ça soit dans les lettres de Napoléon, dans les documents administratifs.
Rien ne l'atteste.
Rien ne l'atteste et Joséphine n'a pas participé à cette discussion. En revanche, il y a un lobby colonial. Il y a un certain nombre de colons saint-domingois, donc de l'ancienne colonie si riche de la France, qui entourent Napoléon. Et aussi, Napoléon a son propre projet, qui est un projet de rétablissement du domaine colonial français. On est dans une période avant 1802 où il y a eu la première abolition de l'esclavage, 1794. Envoi d'une armée vers Saint-Domingue, soulèvement de cette colonie et indépendance de la colonie. Donc perte d'une perle des Antilles, alors que...
Un fleuron commercial. Hein.
On disait
c'est crucial pour la balance commerciale de la France.
80%.
Et, oui.
Et on disait être riche comme un colon de Saint-Domingue. Bon, voilà, ce qui donne quand même bien le cadre. Et Napoléon a l'ambition de réinstaurer un grand empire colonial.
Dans les Caraïbes, quoi.
Dans les Caraïbes. En 1800, il achète la Louisiane, hein, dans cette visée-là, qu'il va d'ailleurs revendre par la suite après l'échec de l'expédition de Saint-Domingue. Et donc, il faut inclure le rétablissement de l'esclavage dans cette perspective économique.
Et au cœur de son projet d'empire commercial dans les Caraïbes, Bonaparte envisageait l'esclave avant tout comme une force de travail.
Oui, il considère l'esclavage comme une force de travail, mais c'était le cas aussi avant la Révolution. Le but de l'esclavage, avant tout, c'est la production. Et Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, dans l'arrêté du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, il dit « Là où l'esclavage n'a pas été aboli, les colonies sont prospères ». Sauf qu'il oublie quand même de dire une chose, c'est que si la Martinique est prospère, c'est surtout parce qu'elle est occupée par les Britanniques, et du fait de la supériorité sur mer des Britanniques, des Anglais, eh bien, les colons de la Martinique peuvent continuer à vendre leur sucre dans toute l'Europe.
Prenez 10 nègres et un blanc. Le blanc possède tout et ne fait rien. Les nègres font tout et n'ont rien. Voilà Saint-Domingue.
La France avant la Révolution.
Mon cher, vous n'avez pas comparé les Français et les nègres. Les Français étaient mûrs pour la liberté. Les nègres, je les connais, moi, avec eux, il n'y a que la trique.
Mes généraux, pas de politique. La liberté, les Noirs l'auront un jour. Mais en attendant, nous allons là-bas pour rétablir l'ordre. Ce sera dur.
Mon général.
Le Dieu!
En réalité, Myriam Cotillas, on ne peut pas distinguer ce rétablissement de l'esclavage d'une pensée racialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, ce mot racialiste ?
L'histoire de l'esclavage a construit des catégories raciales. C'est-à-dire que ça a construit la catégorie de blanc et ça a construit la catégorie de noir-nègre. Alors, à vrai dire, ça l'a renforcé parce que les Portugais qui naviguent sur les côtes d'Afrique vont parler de noirs. Mais toujours est-il que dans l'espace esclavagiste se construisent des représentations entre le blanc maître supérieur et le noir esclave, donc inférieur. Donc il y a une hiérarchie des catégories raciales qui s'instaure, qui va imprégner les représentations. C'est-à-dire
qui s'accentue à l'époque ?
Qui s'accentue à la période de Napoléon, puisque Napoléon, le premier, va parler des Africains, des nègres. Et quand on dit nègre, on dit esclave, tout comme il va parler des Français qui sont forcément blancs. Donc on est vraiment dans une polarisation et un antagonisme des catégories raciales qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'on peut parler de pensée racialiste. On n'est pas dans une pensée raciste. La pensée raciste, elle va venir beaucoup plus tardivement, à la fin du 19e siècle. Mais une pensée racialiste, c'est-à-dire où on aborde l'histoire par ses représentations.
On crée des catégories mentales.
On les renforce, c'est-à-dire qu'on superpose à des catégories d'apparence, des qualités morales, mais aussi des statuts sociaux.
10 000 portugaises, 10 000 livres portugaises. Vous pouvez me croire, c'est donné pour un eau pareil. En parfait état. C'est la succession Breda, honorable planteur installé à Saint-Domingue depuis 39 ans. Monsieur Breda était connu pour être très soigneux de ses esclaves. Allons, messieurs, 10 000 petites livres portugaises.
À l'époque, vous l'avez dit, Myriam Cottias, Bonaparte a un grand projet, hein, c'est d'avoir un empire colonial dans les mers de Caraïbes. Est-ce que de ce point de vue-là, lui, il envisage l'esclave comme un moyen économique, comme un outil de travail ? C'est un être inférieur, puisqu'il est noir, selon les codes de l'époque. Est-ce que lui, dans cette époque qui est la sienne, après tout, il voit cette masse d'esclaves comme une force de travail ?
Il la voit comme une force de travail qu'il méprise. C'est-à-dire, c'est une force de travail qu'il ne valorise pas, mais qu'il méprise et qui est vraiment un truchement de sa politique coloniale. Donc, il n'y a pas de réflexion à proprement parler sur le statut de l'esclave, mais il est dans cette catégorie, dans cette superposition entre un aspect physique, une définition, et puis un statut économique.
Il apparaît donc anachronique de parler de racisme à propos de l'époque napoléonienne. D'ailleurs, l'idéologie raciste ne naîtra qu'à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Comme s'il fallait, coûte que coûte, maintenir une inégalité entre les blancs et les noirs. Certes, les noirs étaient devenus libres, mais la société blanche voulait se rassurer en se jugeant supérieure. Notons au passage que le seul régime politique français qui a fait apparaître le terme de race dans sa loi, ce fut le gouvernement de Vichy entre 1940 et 1944. Les leçons de ces années sombres ont conduit à la rédaction du préambule de notre constitution actuelle. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Alors, plutôt que de parler de racisme à propos de Bonaparte, Frédéric Régent préfère utiliser le terme de préjugé de couleur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le préjugé de couleur, c'était cette ségrégation qui existait entre les blancs, qui par essence étaient libres, et les libres de couleur. Donc, les libres de couleur avaient moins de droits que les blancs, ils étaient rangés donc dans une catégorie à part. Et le 17 juillet 1802, le général Richepense déclare que seuls les blancs pourront être citoyens. Donc, c'est ce que l'on appelle le préjugé de couleur. Et l'autre élément, c'est effectivement ces lois, la loi du 20 mai, n'emploie pas le terme esclavage. Elle dit les colonies seront régies par les lois antérieures à 1789. Il y a quelque chose qui change avec cette période de 1802. Déjà, première chose, les blancs dans les colonies, beaucoup sont métissés. En gros, être blanc, c'est une réputation. C'est pas forcément quelque chose de biologique. Le fait d'être blanc, c'est une réputation. Être libre de couleur aussi, donc c'est un groupe dont certains sont parfois plus clairs que certains réputés blancs. Ce qui change avec cette période-là, c'est qu'effectivement, premièrement, dans le discours scientifique, on voit apparaître une idée de race, mais une idée de race fixe. Parce que si on prend Buffon pensait qu'on pouvait passer du blanc au noir en quelques générations, en fonction du climat, en fonction de l'alimentation, en fonction même de l'éducation. Mais à partir de ce moment-là, le discours qui se développe, c'est qu'il y a des races fixes qui ne peuvent pas être modifiées. Et d'ailleurs, Bonaparte lui-même, hein, on le dit, il avait le teint olivâtre, c'est-à-dire il devait être beaucoup plus bronzé, le teint beaucoup plus mat que tous ses contemporains. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il durcit et il applique systématiquement la législation qui existait avant la Révolution. Par exemple, l'entrée des Noirs et gens de couleur en France, l'interdiction des mariages mixtes entre Blancs et non-Blancs, sauf que dans l'application, on lui demande mais c'est valable que pour les Noirs proprement dit ou c'est valable aussi pour les Métissés ? Finalement, ce qui est décidé, ce n'est valable que pour les Noirs proprement dit. Donc, vous voyez, on est dans une situation qui est complexe. Moi, je pense qu'il ne faut pas utiliser les mots de notre époque pour qualifier une situation du passé. Dans le passé, il y a un mot qui s'appelle préjugé de couleur. Je préfère l'employer plutôt que de parler de racisme. Mais bon, ça, c'est ma démarche d'historien.
Est-ce que ce préjugé de couleur, il est partagé par l'époque, Frédéric Régent ? Est-ce que Bonaparte n'est pas au milieu d'une société qui, effectivement, véhicule ce préjugé de couleur ?
Alors, il y a des gens qui sont contre. Par exemple, l'abbé Grégoire est contre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi qui rétablit l'esclavage le 20 mai 1802, deux mois avant, Napoléon Bonaparte a enlevé tous les députés du corps législatif, du tribunat, qui ne lui plaisaient pas. Et malgré cela, il y en a quand même plus de 60 qui votent contre le rétablissement de l'esclavage. Alors, bien entendu, il y a une élite, il y a un lobby colonial qui est favorable au rétablissement de l'esclavage, mais l'avis du paysan de la Creuse, on lui demande pas son avis. Et ce qu'il faut voir, c'est aussi revenir en arrière. Quand l'esclavage a été aboli en 1794, il y a eu une quarantaine de fêtes qui ont été organisées pour célébrer l'abolition, notamment à Notre-Dame de Paris. Il y a eu près de 800 adresses émises par les municipalités, les clubs politiques, félicitant la convention de l'abolition de l'esclavage. Et autre point, si on interdit les mariages entre noirs et blancs en France, ça veut dire qu'il y a des mariages entre noirs et blancs. Donc voilà, il ne faut pas avoir une vision racialiste de cette société. Et puis, dans les cahiers de doléances, il y avait plus d'une quarantaine de cahiers de doléances qui avaient demandé l'abolition de l'esclavage. Donc on n'a pas demandé à l'ensemble de la population si elle était d'accord pour le rétablissement de l'esclavage. C'est une élite qui l'a demandé et qui l'a obtenu pour la Guadeloupe et la Guyane. La République française avait aboli l'esclavage. C'était le premier État européen à l'avoir fait. Et du fait de Bonaparte, c'est le seul État européen à avoir rétabli l'esclavage.
Le journal de Denis Astagnaud.
Vive l'empereur d'un côté, abat Napoléon de l'autre, le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz divise les Français. Dominique de Villepin et ses ministres restent particulièrement discrets sur ces commémorations du bicentenaire. Cela n'empêche pas les opposants à Napoléon de les accuser de cautionner un tyran sanguinaire. Ils étaient quelques centaines cet après-midi à manifester devant les Invalides, là où se trouve le tombeau de Napoléon.
5 ans qu'on subit les commémorations de Napoléon, faites par des historiens et des politiques qui ne disent pas toute la vérité.
Sur mon t-shirt, il y a marqué « Napoléon Bonaparte, assassin ». Napoléon a rétabli l'esclavage. Je suis martiniquais, je suis donc forcément né d'un crime contre l'humanité.
Dans la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, à votre avis, quelle place doit prendre ce rétablissement de l'esclavage ?
Il doit en tout cas en faire partie, je dirais. C'est la première chose à dire parce qu'il est impossible de présenter Napoléon actuellement comme une personne qu'il faut glorifier complètement. Il faut en montrer toutes les facettes et toutes les complexités. Et il faut intégrer l'histoire du rétablissement de l'esclavage, je dirais, sereinement. Ça fait partie du personnage. Ça fait partie de cette histoire de Napoléon. Et ça a été gommé pendant très longtemps. Napoléon, on peut lui reprocher non seulement le rétablissement de l'esclavage, mais on peut lui reprocher aussi d'avoir saigné les campagnes françaises, d'avoir provoqué un choc démographique et entraîné un choc économique aussi en France. Et tout cela doit être dit. Tout cela doit être analysé dans ce moment de commémoration. Il ne s'agit pas de dire que malheureusement l'esclavage a été rétabli. C'est le malheureusement, vous voyez, introduit un jugement de valeur. Non, il a rétabli l'esclavage, ça faisait partie d'une politique et il faut le dire à ce titre-là, comme il faut admettre tous les composantes de sa politique.
Demeure une dernière question. Bonaparte estimait être l'enfant de la Révolution, elle-même fille des Lumières. Alors, est-ce que le rétablissement de l'esclavage serait une forme de trahison de cet héritage du XVIIIe siècle?
L'héritage des Lumières est un héritage complexe.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Effectivement, les Lumières posent les prémices d'une philosophie morale qui va aboutir à l'égalité du genre humain, mais en même temps, Bon, la Société des Amis des Noirs prône l'abolition de la traite, mais pas l'abolition de l'esclavage. Ça sera vraiment plus tard, au début du 19e siècle, que ça sera dit. Donc, c'est un héritage complexe et que Napoléon va réinterpréter sous l'angle de la domination violente, en tout cas d'une instauration d'une relation violente avec le reste du monde.
En conclusion, Bonaparte n'était pas raciste, au sens où l'adjectif est inapproprié à l'époque. Il a envisagé le rétablissement de l'esclavage comme moyen économique pour imposer son désir d'empire colonial face aux Anglais, mais en accentuant des catégories mentales où les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, précepte du racisme né au mi-temps du 19e siècle. L'ironie de l'histoire se niche peut-être à Sainte-Hélène, où Napoléon a pu croiser, pendant sa captivité, des esclaves africains libérés par les Anglais qui avaient interdit le commerce des êtres humains depuis 1807.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série réalisée par Violaine Ballet, assistance éditoriale Estelle Gap, documentation sonore Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evanou. Avec la participation de Nicolas Lormeau de la Comédie Française. Prochain épisode, Napoléon Superstar, une icône de la pop culture. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, est un podcast original de France Inter.